Voilà, vous allez bien? Bonjour à chacun, mais je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. En plus, on a un soleil radieux là. C'est super. Alors, pour commencer, je voulais vous parler. J'ai l'occasion d'aller prêcher ici et là. Et puis, parfois, on est un peu frustré. Je vais vous parler juste de la frustration du prédicateur. La frustration du prédicateur quand parfois les gens viennent vous voir et vous disent « Ah, oh, c'était super le message !» Et je dis « C'était sur quoi ?» Et là, je crois que tu as prêché sur « Incapable de dire le thème » et la frustration du prédicateur. Parfois, on la retrouve dans les repas de famille à la fin, le dimanche après-midi, hein, Christian, où on débriefe un petit peu sur les messages qui ont été donnés dans les églises, à droite, à gauche. Alors, c'était bien le culte? Ah, super! Le message? Oh, on a eu un super message. Et il a prêché sur quoi? Et alors, il a parlé je crois que c'était sur... Et puis la silence radio, parce qu'en fait, on ne sait plus, on ne se rappelle plus. On sait que c'était bien, mais on s'en souvient plus. La frustration du prédicateur. Alors pour vous éviter ça, ce midi, je vais essayer de vous marteler le verset. J'ai choisi un verset en particulier. Et je vais vous le marteler durant tout le message, comme ça, à la fin du message, vous serez, j'espère, vous saurez de quoi ça a parlé. Et vous pourrez dire à midi, le prédicateur a parlé de... Alors, pour pas qu'il y ait de suspense, je vous le dis tout de suite, je vais vous parler de Hébreux 12 au verset 1. Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est ouverte. Ou dans une autre version, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà, il y a plus de suspense. Vous pourrez dire, le prédicateur a parlé sur Hébreux 12 au verset 1. Alors, pour vous parler du contexte de ce passage, donc la lettre aux Hébreux a été écrite par Paul. Aux Hébreux, donc, comme son nom l'indique, c'est donc les Juifs de Palestine qui sont devenus chrétiens à la suite de la prédication des apôtres. Mais le temps a passé et puis les Hébreux qui ne se sont pas convertis ont essayé de récupérer ces nouveaux chrétiens en les décourageant, en les persécutant. Si bien que ces chrétiens se sont un peu refroidis. Ils sont un petit peu revenus en arrière. Et la lettre de Paul aux Hébreux, c'est justement une occasion de les récupérer, de les encourager dans leur foi, de les encourager de les ramener sur le chemin de la foi et de les ancrer sur la personne de Jésus. Voilà le but de cette lettre aux Hébreux. Ancrer les nouveaux chrétiens sur la personne de Christ. Alors, je vais avancer progressivement dans ce verset de Hébreux 12 et on va essayer de définir les mots, mot à mot. On va avancer pour que j'espère que vous ayez une compréhension renouvelée de ce texte. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors la nuée de témoins, avant, quand je me suis converti, je me demandais ce que c'était. Je trouvais que c'était un petit peu mystérieux, de quoi ça parle. Alors, la nuée, c'est juste une grande quantité. Et puis, les témoins, bah, c'est la définition du témoin, c'est une personne qui a vu ou qui a entendu quelque chose et qui peut le certifier. Une personne qui a simplement vu ou entendu quelque chose et qui peut le certifier, certifier que cette chose est vraie. Quelle est cette nuée de témoins? Ben alors pour ça, faut relire Hébreux 11. Et là, Paul fait la liste de toutes ces personnes qui ont été qui ont marqué l'histoire par leur foi. Alors ces personnes, Abraham, Sarah, Isaac, Noé, Moïse, David, etc., la liste est longue, Samuel. Donc toutes ces personnes, vous les retrouvez au chapitre 11. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes tous appelés à marcher dans les pas de ces hommes de foi, de ces femmes de foi qui ont marqué l'histoire. Et nous sommes tous appelés à inscrire notre petite histoire dans la grande histoire, à écrire notre page dans l'histoire, dans le livre de la foi, dans ce grand livre de la foi. Alors nos vies, elles doivent être un livre ouvert qui est censé montrer aux contemporains ce que Dieu est capable de faire. Et moi, j'aime bien dire que si l'évangile, si la Bible est l'évangile des chrétiens, eh bien, la vie des chrétiens doit être l'évangile des inconvertis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les personnes qui ne lisent pas la Bible doivent lire au travers de nos vies ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce qu'on est appelé à faire et à être, des hommes et des femmes de foi, pour continuer cette liste que Paul nous donne dans le chapitre 11. Nos noms sont gravés dans le livre de la vie. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et pour cela, il nous faut rejeter tout fardeau. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. C'est mon premier point. Alors, vous voyez l'image de cet homme qui a une grosse valise et qui souhaiterait s'embarquer dans un petit bateau en papier. On est parfois comme cet homme, on voudrait voyager léger, mais on a du mal à lâcher certaines choses. Il y a trop de choses dans la valise. On est comme cet homme qui a du mal à lâcher prise. Le coureur de 100 mètres, on arrive bientôt dans la période des Jeux Olympiques, le coureur de 100 mètres travaille très dur pour être à la hauteur, pour pouvoir concourir. Il travaille dur pour muscler et affiner son corps, mais au-delà de son effort physique, il y a tout un travail sur la tenue, sur les habits, pour que chaque gramme de sa tenue soit optimisé. Parce que chaque gramme inutile, eh ben c'est un millième de seconde en plus. Et un millième plus un millième plus un millième, eh bien ça lui coûte la victoire. Donc on étudie les matériaux textiles pour qu'ils soient le plus léger possible et le plus aérodynamique possible, qui est le moins de résistance au vent. Ben, le but, c'est de partir le plus léger possible. Comme cet homme, contrairement à cet homme, rejetons tout fardeau. Le fardeau dans notre vie, c'est toutes ces choses qu'on a du mal à abandonner. Les soucis de la vie, les préoccupations, tout ce qui occupe notre esprit et ce qui occupe notre cœur. Tous ces fardeaux qui nous pèsent et qui nous empêchent de porter notre attention sur l'essentiel. Et comme le coureur qui ne s'encombre pas des vêtements inutiles qui vont le freiner, ben nous devons, nous aussi, dans notre marche chrétienne, identifier ce qui nous freine. Les fardeaux, ça peut être aussi le poids du passé, les inquiétudes concernant le lendemain. Ça peut être un travail qui pourrit notre vie, une petite retraite qui nous empêche de subvenir à nos besoins, de payer nos factures. Enfin, ça peut être toute situation qui amène du souci. Voilà, parfois, on porte des choses sans vraiment réaliser qu'elles nous pèsent, sans vraiment réaliser qu'elles nous retiennent, qu'elles nous empêchent d'avoir une marche normale. Et on porte nos fardeaux parfois par habitude. On porte nos fardeaux sans savoir qu'en fait, on peut s'en débarrasser, on peut les poser à la croix. Et comme cette femme qui marche sans fardeau, léger, souriante, on est appelé, oui, à déposer nos fardeaux, les abandonner à la croix. Tout ce qui nous retient, tout ce qui nous préoccupe. Les fardeaux, c'est aussi les épreuves et les coups durs, tout ce qui s'impose à nous. La perte d'un boulot, un licenciement, ça peut être un mail, une lettre qui nous amène une mauvaise nouvelle. Ça peut être un diagnostic qui tombe et plus rien ne sera jamais comme avant. Il y a un avant, il y a un après, il y a une nouvelle qui bouleverse notre vie. Ce moment où on projetait, on a des rêves et puis cette nouvelle qui vient comme briser nos rêves. Tout ce que je pensais, tout ce qu'imaginais n'arrivera pas. C'est un appel tard dans la nuit, c'est un coup de fil d'une personne qu'on n'attendait pas. Bref, c'est tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on projetait qui ne sera plus possible. Ça peut être la perte d'un être cher qui est parti trop tôt. Ça peut être un ami qui se suicide. Et le ciel, tout d'un coup, change de couleur. Tous ces fardeaux qui nous pèsent. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le poids de notre fardeau, il n'est jamais trop lourd pour être posé à la croix. Il n'est jamais trop lourd pour être confié à Jésus. Alors, j'ai une question pour toi. Quel fardeau n'as-tu encore pas déposé à la croix? Quel fardeau est-ce que tu continues à porter par tes propres forces? L'inquiétude d'un enfant ou d'un proche qui n'est encore pas engagé avec Dieu? Une instabilité financière ou professionnelle? Enfin, il y a autant de questions qui prennent trop de place dans notre petite tête et qui nous empêchent de penser aux choses importantes. Au royaume. Alors, ça fait des années que tu traînes ce fardeau, mais voilà, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, c'est jamais trop tard pour les déposer à la croix. Rejetons, frères et sœurs, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est mon deuxième point. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est ce qui arrête le chrétien dans sa marche. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Péché, vous savez, la signification, rater la cible. Voilà, ça c'est la définition du mot péché, c'est manquer la cible. Alors on est dans une génération où le péché est complètement banalisé. C'est-à-dire que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et la chair est sans arrêt stimulée, éveillée, poussée à satisfaire ses envies. C'est une pub dans la rue, quand on marche, d'une femme nue, juste pour vendre un yaourt ou un parfum. C'est une invitation douteuse dans une boîte mail. C'est des séries, des programmes qu'on regarde, pourtant au départ propres, et qui finissent par avec des images obscènes. Nous, on s'est désabonné de Netflix parce qu'à chaque fois qu'on trouvait une bonne série qui nous semblait propre, ben ça finissait toujours par des scènes de sexe ou de choses malsaines. Alors on a fini par un moment, on s'est abonné à Disney Plus, c'est le programme pour les enfants. Et bien même là, il y avait des programmes où on était obligé de couper. Parce que, à un moment, ça faisait l'apologie de l'homosexualité, l'apologie des relations multiples, même pour des programmes pour enfants. Vous voyez? Et sur Internet, la pornographie est à portée d'un clic. Et inconsciemment, toute cette exposition imprime dans notre esprit l'idée que ce serait beaucoup plus simple, finalement, si on se laissait aller à nos passions, si on se laissait aller tout simplement à nos désirs, ce serait tellement plus simple. Et parfois, les chrétiens vivent un véritable enfer parce qu'on est comme tiraillé entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que la chair nous rattrape. La norme dans ce monde, c'est la jouissance immédiate et sans engagement. C'est mon plaisir avant tout et tout de suite. Mais l'évangile lui procède d'une toute autre logique. C'est le bien des autres avant le mien. C'est la sanctification avant tout. Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'enjeu ici-bas, pour nous, chrétiens, c'est de nous dépouiller de notre vieille nature et de faire mourir toutes nos œuvres charnelles afin de laisser Christ habiter pleinement en nous. Voilà notre programme. Nous laisser dépouiller. Laisser notre nature charnelle de côté pour suivre Christ. J'ai un exemple, un triste exemple d'un serviteur de Dieu, quand j'étais encore dans ma région en Bretagne, à l'ouest de la France, d'un serviteur de Dieu qui a marché des années et qui un jour est tombé. Il s'est laissé séduire par une femme et il est tombé dans l'adultère, laissant toute une famille sur le côté. Il a quitté sa femme et ses enfants pour partir avec cette femme, laissant une église en morceaux, laissant des chrétiens complètement désorientés, se détourner de la foi. Et malheureusement, cet exemple, c'est pas un exemple isolé. Ce pasteur vient s'ajouter à la longue liste des serviteurs qui ont été arrêtés, freinés dans leur marche, dans leur ministère, à cause précisément d'un péché. Souvent caché. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et comme la chair est faible, eh bien, il n'y a pas d'alternative. Il faut fuir le péché, il faut rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que le péché produit la mort, dit Romains 6 au verset 23. Le péché produit la mort. Tu peux passer à la slide suivante, le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça, c'est l'image du péché qui se présente à nous. La tentation, quand elle frappe à notre porte, elle se présente souvent avec son meilleur atout. C'est parfois quelqu'un qui d'innocent, quelqu'un de fragile, qui nous demande de l'aide. Et nous, en bons chrétiens, eh bien, on va l'aider. Voyez, quand la tentation se présente à nous, c'est souvent déguisé. Elle est souvent déguisée. Et j'aime bien utiliser cette image pour parler du péché. C'est un enfant qui un jour trouve dans l'herbe un tout petit serpent. Vous voyez, comme un ver de terre. C'est minuscule. Alors, il joue avec et il l'emmène à ses parents. Et puis, les parents disent, bon, bah, c'est tout petit, hein. Allez, tu peux jouer avec, tu peux même l'emmener à la maison. Et donc, l'enfant joue quelques jours avec ce petit serpent. Seulement, un jour, le petit serpent, il se cache dans les recoins et il finit par ne plus être accessible. Il se cache sous la plinthe. Voilà, sous un meuble. Et ce petit serpent, finalement, les parents s'en inquiètent pas, l'enfant a oublié. Et il continue de grandir parce qu'il se nourrit des miettes qui tombent sur le sol, il se nourrit des morceaux de nourriture qui tombaient à terre. Et puis, voilà, les semaines passent, les mois passent, et puis ce petit serpent grandit. Et un jour, petit serpent devient grand, et en réalité, c'était un boa, c'est un énorme serpent, capable, la nuit, quand tout le monde dort, de dévorer le petit garçon et sa famille. Petit serpent deviendra grand, un petit peu comme cette image où l'ennemi, le péché se présente à nous de manière innocente, Et puis, un jour, il se révèle sous sa véritable identité. Petit serpent deviendra grand, petit péché deviendra grand. Quel péché caches-tu dans ta vie? Quel péché caches-tu aux autres qui n'a pas encore été mis à la lumière de Dieu? Ou quelle pensée, ça peut être juste le début d'une pensée qui a commencé à germer dans ton esprit, comme un petit bébé serpent. Je pourrais faire ça. Alors, c'est encore pas un acte, hein, mais c'est juste en pensée. Et je vous parle des pensées parce que souvent, on entend des chrétiens dire, ah, je suis tombé, bah oui, je suis tombé, mais je vais me relever. Mais très souvent, en fait, le péché commence d'abord dans la pensée, dans la perspective de faire quelque chose. En tout cas, dans ma vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand j'ouvre une porte dans mes pensées, c'est là que l'ennemi s'engouffre. Et ensuite, le péché qui était juste une pensée devient une réalité. Et le péché conduit à la mort. Débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Et une fois libérés de tout fardeau et de tout péché, nous voilà légers pour courir. Courons avec persévérance, c'est la suite du verset. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, courons avec persévérance. Alors dans le mot courir, c'est l'idée de mouvement. La vie chrétienne, c'est une marche en avant. Et parfois, bah, on est arrêté par le péché et on piétine dans notre vie. J'ai souvent remarqué que le fait de s'arrêter dans notre marche, pour diverses raisons, peut conduire à l'oisiveté. Et l'oisiveté mène au péché. Alors, c'est différent d'un temps de repos hein, qu'on doit s'accorder quand on travaille dur. Et la Bible nous encourage à ces temps de repos, le repos en Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ça, c'est le repos de Dieu. C'est le repos du serviteur qui sait s'accorder dans son emploi du temps des temps de repos. Mais c'est des repos dans la présence de Dieu. Mais moi, je parle des temps d'arrêt, des temps où on devient oisif. Les temps de repos, quand on a travaillé dur, sont légitimes. Mais les temps où on s'arrête parce qu'on est lassé, la lassitude nous gagne. Ce sont les Hébreux qui ont piétiné dans le désert. Ils étaient lasses. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert? Ils ont commencé à murmurer. Ils se sont arrêtés dans le désert. Et alors, les idées leur sont venues. Un moment, quand Moïse s'isole pour aller rejoindre Dieu dans la montagne, eh bien, ils ont des idées. Ils ont fabriqué le veau d'or, l'image. Ils se sont donné une image de Dieu. L'oisiveté. C'est David qui, au lieu d'être sur le champ de bataille, s'arrête. Et sur le balcon, et puis il voit au loin une jolie femme. Alors il s'approche, Bathsheba, et puis il commet l'adultère. Voyez, c'est tous ces moments où on s'arrête alors qu'on devrait être en train de marcher. Mais dans ma vie, j'ai toujours vu que quand je m'arrête dans ma course, c'est souvent là que je tombe. C'est souvent là que le péché, que je deviens vulnérable au péché. Ce péché qui m'enveloppe si facilement quand je suis plus en état de marche. Ne nous arrêtons pas, mais courons, courons toujours avec persévérance. Courons avec persévérance. La persévérance, c'est une des qualités la plus importante. Moi, j'aime bien faire du foot. Enfin, j'aime bien, un peu moins maintenant, mais je faisais du footing. Et j'ai toujours marqué que le premier kilomètre, c'était le plus difficile. Les 2 premiers kilomètres. C'est un calvaire. Et là, on est tenté de s'arrêter. Mais c'est justement là qu'il faut persévérer. Il faut passer cette phase de découragement. Mais la chair nous rappelle qu'on serait tellement mieux devant la télévision ou sur la terrasse d'un café. Mais c'est justement là qu'il nous faut trouver le second souffle. La persévérance consiste à tenir ferme lorsque le corps, la chair, nous dit de s'arrêter. Est-ce que vous connaissez John Aquari? John Aquari, c'est un coureur, un marathonien qui a participé au marathon de Mexico en 1968. C'était les Jeux Olympiques de Mexico. Et après 20 km, il fait une grave chute et voilà, il tombe, il se blesse sur le genou. Et puis, les médecins, ils font un bandage, l'incitent à arrêter la course. Et lui, il continue contre toute attente. Il poursuit la course. Et il finit plus d'une heure après le premier, le vainqueur de la course. Une heure après, donc, les gens commençaient à partir. Il entre dans le stade, finalement ovationné parce qu'il était titubant. Voilà, il a continué sa course avec un bandage et au péril de sa vie. Et à l'issue de la course, on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes pas arrêté? Et il a dit, mon pays ne m'a pas envoyé à 8 000 km pour commencer la course, mais pour la finir. Hein? Mon pays, c'était la Tanzanie. Mon pays ne m'a pas envoyé à 8 000 km d'ici pour commencer la course, mais pour la finir. Ça, c'est un exemple extraordinaire de persévérance. Et c'est vrai que dans la vie, il y a des épreuves. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à marcher à contre-courant. On est appelés à marcher avec persévérance. Est-ce qu'il y en a qui font de la course ici? Oui? Non, il n'y en a pas beaucoup, hein? J'en ai fait, voilà. Un chrétien qui s'est arrêté dans sa course. Amen. C'est le plus important. Bon, l'image de la course, c'est une image. Mais j'imagine bien que quand tes articulations s'affaiblissent, on n'a plus trop envie de courir, hein. C'est une image. Mais la vieillesse, petite parenthèse, la vieillesse. Avant, j'avais une mauvaise idée de la vieillesse parce que dans mon quartier enfant, toutes les personnes âgées du quartier étaient des gens aigris, des gens qui passaient leur temps à se plaindre. J'ai les rhumatismes, le mal de dos, l'arthrose. Et puis, ces personnes râlaient parce qu'il y avait trop de bruit dans le quartier, les enfants qui font du bruit, C'était des papys et des mamies grincheux. Ouais. Et voilà l'image que j'ai eue étant jeune des anciens. C'était des gens aigris par la vie. Moi, ça ne me donnait pas envie de prendre de l'âge. Hein. Oui, parce qu'on peut avoir, on peut être vieux dans sa tête et finalement être jeune. Ah oui, bah, quand on est jeune, on voit les anciens beaucoup plus anciens qu'ils ne le sont. Hein. Voilà, moi, quand j'ai mes élèves qui me disent les vieux, c'est quoi les vieux? Je dis 30 ans, c'est vieux? Ah oh, oui, 30 ans, c'est très très vieux. Oui, tout est relatif. Bref, voilà l'image que j'avais des anciens, voilà, aigris. Et puis, un jour, je découvre le Seigneur, je me convertis, et puis je rencontre des anciens chrétiens. Et notamment une mamie qui avait le sourire, tout le temps elle rayonnait, et puis elle se plaignait pas. Elle passait son temps à dire, oh, que tu es beau, toi! Et puis, elle voyait tout en positif. C'était Mamie Soleil, et avec un sourire du bon côté. Les anciens de mon quartier avaient des sourires de l'autre côté. Et on est appelé voilà, on prend de l'âge, mais les meilleurs moments sont là, ces instants où on peut communiquer la vie, la joie, l'espérance à ceux qui nous entourent et être ces papis et ces mamies rayonnants. On n'est pas appelé à nous plaindre de la vie, des maux de la vie, de ce qui ne va pas. On est vraiment appelé à rayonner et à refléter Christ autour de nous. On est appelé à être des mamies et des papis soleil. Courons avec persévérance, et la suite est dans la carrière qui nous est ouverte. Courir dans la carrière qui nous est ouverte. Alors le mot carrière, c'est un peu un mot désuet. Bon, le mot désuet, c'est aussi un mot désuet. Alors c'est un mot un peu ancien. Ça nous fait penser à la carrière où on casse les pierres pour faire des graviers ou extraire du sable. Bref, la carrière dans ce sens-là, c'est apprendre au sens de combat ou l'épreuve qui nous est donnée. L'épreuve qui nous est offerte. L'épreuve ou la course. C'est le même mot qui est utilisé dans 2 Timothée 4 au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et Paul utilise souvent l'image de la course pour parler de la vie chrétienne. C'est pour ça que je vous parle de cette course, parce que même si vous ne courez pas et vous ne faites plus de footing, votre vie est une course dans la foi, une course de foi. Et pour reprendre l'image du marathonien, il y a deux choses auxquelles le marathonien doit veiller s'il veut terminer la course. Deux choses. Premièrement, avant le départ, se débarrasser des choses pesantes ou encombrantes. Ça, c'est l'image des fardeaux. Rejetons tout fardeau. Donc, se débarrasser des choses pesantes ou encombrantes. Et deuxième chose, pendant la course, il doit veiller à ce que rien ne l'arrête. Et ça, c'est la chute, l'image du péché. Courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, courons la course qui nous est proposée. Alors, l'homme le plus rapide au monde, c'est Usain Bolt, donc champion de 100 mètres, c'est celui qui court le plus vite au monde. Mais imaginez, s'était présenté à un marathon de 50 km, il n'aurait jamais inscrit son nom dans l'histoire. Tout ça pour vous dire que nous sommes tous appelés à courir une course, la course qui nous est propre, la course que le maître nous confie. Parce que personne ne peut courir notre course à notre place. Dieu nous donne à chacun une course, une mission à accomplir, selon nos capacités, selon notre appel, selon notre sensibilité et les dons qu'il a placés en nous. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la course que nous devons mener, eh bien, elle sera exigeante. Elle va demander de la persévérance. Que ce soit un sprint de 100 mètres ou le marathon, eh bien, ça va nous demander de la persévérance. Et l'important, même si on est appelé à être dans des couloirs différents ou à mener des courses de longueurs différentes, eh bien, l'important, c'est d'aller dans la même direction et de nous encourager mutuellement. C'est-à-dire que si à côté de moi, quelqu'un fait une course et qu'il est plus lent, je dois l'encourager à persévérer, à aller plus loin. Et le sprinter, une fois qu'il a fini son 100 mètres, il peut aller encourager le marathonien en disant « Vas-y, va jusqu'au bout, l'arrivée est proche » Es-tu encore en marche? Ou est-ce que les épreuves de la vie ont eu raison de ta foi? Est-ce que tu as renoncé à avancer? Est-ce que t'es pris dans le courant de la vie comme pris dans une force d'inertie? Mais que finalement, intérieurement, tu es éteint. Vous savez, c'est l'image du bateau à moteur. Bateau à moteur qui a besoin d'essence. Alors, il se lance et puis Pour un temps, il y a du carburant, donc le bateau avance, et puis à un moment, il y a plus de carburant. Et le problème, c'est que il est pris par l'élan, par la force d'inertie, donc il continue d'avancer, mais il n'y a plus rien. Et parfois, nous, on peut être dans ce cas de figure où d'apparence, on est en marche, d'apparence, on est debout, mais intérieurement, on est comme ce bateau qui part à la dérive parce qu'il n'y a plus de carburant. Alors les autres pensent que tout va bien, qu'on est en marche, qu'on avance, mais on fait du surplace. C'est une apparence. Alors est-ce que tu es comme ce bateau qui part à la dérive? Tu es juste entraîné par l'élan, mais en réalité, tu n'es plus en marche. Alors il est temps de retrouver un second souffle, le second souffle qui va t'amener plus loin. Il y a quelques années, il y avait une femme qui avait entrepris de traverser l'Atlantique, en partant de la France pour rejoindre les États-Unis, et en solitaire. Donc dans une petite embarcation, et c'était à la rame. Quel challenge! Seulement, donc elle était quand même reliée à des bornes pour si jamais il y avait des problèmes, elle pouvait demander de l'aide. Hein. Mais il n'y avait pas de GPS. Elle partait comme ça à l'aveugle, juste à la force de ses bras et de son mental. Et cette femme, voyez-vous, elle s'est arrêtée à 800 mètres de la Terre. Mais comme elle était épuisée, sans savoir où elle était, elle a déclenché l'alerte. Donc, les secours sont venus la chercher. Et quand elle a compris qu'elle était qu'à 800 mètres du rivage, elle s'est effondrée. Elle s'est dit, mais si seulement j'avais vu la Terre! Si seulement j'avais vu la Terre! Pour gagner la course, frères et sœurs, il est nécessaire d'avoir les regards fixés sur l'objectif. Les regards fixés sur l'objectif. Et c'est mon quatrième et dernier point. Courons avec persévérance, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Notre objectif, c'est de rejoindre le Christ, n'est-ce pas? Notre objectif, c'est d'entrer dans sa présence une fois notre course terminée. Notre objectif, c'est de rejoindre Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Et si possible, au passage, en emmenant le maximum de personnes avec nous. Le chemin de la foi mène tout droit au pied du trône de Dieu. Jésus, c'est notre modèle. Et c'est sur Jésus que nous devons fixer nos regards. C'est notre modèle suprême. Un modèle de persévérance. Lui qui a enduré tant de souffrances, qui a rencontré tant de déchaînements, de haine, il a continué. Il a continué son chemin. Il est allé jusqu'au bout du calvaire. Pour nous. Par amour pour nous. Et alors que la haine des hommes le poursuivait jusqu'à la croix, par des insultes, par de l'humiliation, eh bien, il a continué à regarder vers le Père. Voilà, c'était son objectif, accomplir la volonté du Père. Il a été humilié à notre place, mais il n'a jamais renoncé, il a persévéré. Et dans sa mission, il avait le regard fixé sur le Père, et puis il avait chacun de nous dans son cœur. Voilà ce qui le poussait. Voilà quel était son carburant pour aller jusqu'à la croix. 1 Pierre 2 au verset 21. Si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a tant souffert pour nous, alors nous, on peut bien, pour un temps, un peu souffrir pour lui. Jésus, notre modèle de persévérance. Jésus, notre modèle d'humilité. Il n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Jésus a quitté son ciel de gloire et il s'est abaissé pour venir dans notre condition misérable. Et nous, parfois, on s'offusque quand quelqu'un nous passe devant à la caisse, ou quand quelqu'un prend trop de temps, on s'offusque quand quelqu'un nous fait une queue de poisson sur la route, on entre dans des colères, au lieu de regarder à Jésus, de suivre son exemple d'humilité. Jésus, notre modèle de serviteur, c'est pour nous servir qu'il a quitté son ciel de gloire. Matthieu 20, 28, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et nous, en bon français de France, on râle et on n'est pas content. Et dès qu'on nous demande un service, on râle. Au restaurant, on râle parce que le serveur prend un peu de temps pour nous servir. Jésus, lui, il a quitté son ciel de gloire, non pas pour être servi, mais pour nous servir. Alors, laissons nos regards fixés, gardons nos regards fixés sur Jésus. Parce qu'il faut reconnaître que bien souvent, on ne regarde pas au bon endroit. On regarde les autres, leur façon de faire, et on se compare. On se compare. Ah, lui fait ci comme ça, moi j'aurais fait ça comme ci. On regarde à côté, on regarde pas au bon endroit, et puis c'est comme ce Pierre, vous savez, j'aime beaucoup Pierre, je m'identifie beaucoup à Pierre, un personnage entier, mais entier parfois dans ses erreurs. Pierre, il a regardé à côté quand Jésus lui demandait « Viens, suis-moi », et puis voilà ce qui va arriver, Jésus lui disait « Voilà ce qui va t'arriver », et puis Pierre lui demandait Et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment il va finir? Jésus lui dit, toi, peu t'importe, toi, suis-moi. Et des fois, on est comme ce Pierre à regarder à côté, ou dans le tumulte de nos vies, quand la tempête fait rage. Au lieu de regarder à Jésus, on regarde à côté, ou on regarde aux circonstances, à ce qui ne va pas. Jésus demandait à Pierre de marcher sur l'eau. Alors, il a marché pour un temps et puis, à un moment, il a regardé aux circonstances, il a eu peur, il a lâché les regards de Jésus et puis là, il a commencé à sombrer. Et on est comme ce Pierre, parfois, on regarde à côté au lieu de garder nos regards fixés sur Jésus. Alors, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Dans l'église aussi, parfois, on regarde à côté. Parfois, on se laisse entraîner dans des discussions, dans des débats qui sont plus trop glorieux. Hein. On est pris dans des débats qui nous divisent de doctrine, la doctrine, les différentes doctrines de la fin du monde, l'expression des dons du Saint-Esprit. Enfin, toutes ces choses qui parfois amènent à la division. Et amène des blessures. Des fois, on se blesse pour des questions de conception, mais le plus important, c'est de regarder à Jésus. Et au lieu de parler de tout ça, bon, certes, c'est important, hein, la théologie, je ne dis pas, mais au lieu de parfois nous diviser sur des questions sur lesquelles on ne va pas tomber d'accord, mais parlons de ce que Jésus a fait dans nos vies. Faisons des soirées témoignages. Mettons-nous d'accord en regardant Jésus. Regardons au bon endroit. Restons les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il est le seul. Il est le seul à nous conduire sur le bon chemin, sur le chemin qui nous mène au Père. Et les yeux fixés sur Jésus, c'est la seule façon pour nous d'être sur le bon chemin et d'arriver à bon port. Je vais prier pour vous. Oh Seigneur, Merci pour ta parole, parce qu'elle est comme un phare dans la nuit. Elle est comme une lumière, voilà, lumière sur notre sentier, quand parfois tout est obscurci, quand on ne voit plus, quand les ténèbres s'épaississent, eh bien, on peut avoir la certitude d'être sur le bon chemin si on garde nos regards fixés sur toi. Alors, je te prie, Seigneur, pour chacun, ce matin, merci de déposer quelque chose dans les cœurs. Là où quelqu'un se sent fatigué, chargé, là où quelqu'un se sent épuisé dans sa marche, que tu puisses donner un second souffle. L'important, ce n'est pas de commencer la course, mais c'est de la finir, et de la finir avec toi. Merci Jésus de nous encourager. L'ambiance, le monde est si ténébreux. Et plus on avance dans l'histoire et plus les ténèbres s'épaississent, on a besoin de toi, Seigneur, pour garder nos regards fixés sur toi, pour finir notre course. Alors, Seigneur, fais-nous grâce. Et à chaque fois qu'on serait tenté de s'arrêter ou de revenir en arrière, donne-nous une parole. Donne une parole à notre cœur pour nous encourager à continuer à finir la marche avec toi. Dans ton nom, Jésus. Amen.